Bonjour à tous et à toutes, c'est reparti pour un nouveau numéro d'Esprit Sport. Aujourd'hui, on va mettre des crampons, des baskets, on va mettre aussi le maillot de bain, on va sortir les rames et surtout le micro bien en face de nous, car c'est une émission très diversifiée qui vous attend dans ce 21e numéro d'Esprit Sport. Pour m'accompagner aujourd'hui, une belle équipe, l'équipe à Jojo, comme disait Joe Dassin. Il est de retour de vacances en forme olympique pour sa première de l'année 2024. Bienvenue Corentin.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Alors comment ça va du côté de l'Aveyron?
Ça va bien, fraîchement, très frais, avec un match de foot que je devais arbitrer ce week-end qui a été annulé parce qu'il y avait 20 cm de neige sur le terrain.
20 cm de neige, et quand c'est comme ça, vous devez faire des repérages avant le match, et là vous avez dit stop.
Non, non, on appelle la municipalité, on demande si on arrêtait sur le terrain et puis on reste au chaud.
Hein. Très bien, on fait pas le déplacement pour vérifier l'état du terrain, d'accord,
autant pour moi. Ah non, surtout à une heure de route. Hein.
Ah oui, c'est vrai, ça. Ça c'est fait. De l'autre côté, elle est de retour aussi, retour de notre paloise, fan de la section, jusqu'à avoir une voiture de la couleur du club. Bienvenue Coraline.
Eh oui, exactement, corporate.
Corporate, carrément. La forme?
Tranquille, tranquille.
Tout va bien?
Tranquille, tout va bien.
On a passé un bon week-end.
On a passé un bon week-end, on a passé de bonnes vacances.
Mais c'est vrai que vous n'étiez pas là la semaine dernière.
Exactement.
Et non, comment ça s'est passé les vacances?
Mais fort bien ma foi.
Fort bien ma foi, et bien dites donc, on a vraiment une équipe 100% au top là. Et c'est la quatrième roue du carrosse, il est aussi en studio, Erwan est présent, bienvenue.
Bienvenue, je comprends que si je suis pas là, ça roule pas.
Et ça roule moins bien.
Ça roule moins bien.
On avance, voilà. Mais on recule pas, ça c'est plutôt pas mal. Tout va bien depuis la semaine dernière?
Mais tout va bien, tout va très bien.
Est-ce que vous vous êtes remis des émotions du Kilimandjaro de Vanessa Morales?
Bah j'avais un peu froid quand elle en parlait vu l'altitude, et puis j'ai eu un peu froid en sortant après, mais ça je crois que c'est juste la température hivernale.
On vous rappelle que vous pouvez aller écouter évidemment en podcast cet entretien avec Vanessa Morales, c'était l'émission de la semaine dernière. On va parler de beaucoup de choses aussi, on va commencer par les tops et les flops, à suivre le premier entretien en face à face olympique à 192 jours de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Nous recevrons Christine Leclerc, présidente de l'Union Nautique Montalbanaise. Elle mettra en lumière l'aviron, ce sport olympique qui la passionne depuis de nombreuses années. Elle va nous dire un petit peu comment ça fonctionne. Elle va nous parler de son club qui a plus de 100 ans et ça sera dans quelques minutes. On va aussi continuer les comptes à rebours. Dans 18 jours, le tournoi des 6 nations débute pour les Bleus à Marseille face à l'Irlande. Mais aujourd'hui, on se motive avec une sorte de recette et comment bien commencer ce tournoi. On va voir les avis un petit peu de chacun. Comment tourner la page de la Coupe du Monde pour bien commencer ce tournoi à destination? Ce sera la question du week-end dont on essaiera de répondre dans quelques minutes et on terminera avec un pronostic et une analyse de match du week-end pour, pourquoi pas, aller le voir. Mais tout de suite, on commence par l'information sportive de la région. C'est avec Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
En Coupe d'Europe de rugby, le Stade Toulousain s'impose face à l'Ulster.
Samedi soir, Toulouse s'est imposé avec le bonus offensif 24 à 48 pour le compte de la troisième journée de la Champions Cup. Les Rouges et Noirs ont inscrit 7 essais pendant cette rencontre, dont un doublé pour Antoine Dupont et un autre pour Peato Movaca. Au final, les Toulousains repartent encore victorieux après avoir mis 7 essais pour la troisième fois consécutive. Avec cette nouvelle victoire à 5 points, la troisième en 3 matchs, le Stade Toulousain est en tête de la poule 2 et d'ores et déjà qualifié pour les 8e de finale de la compétition.
Le TFC reprend du poil de la bête en Ligue 1.
Toulouse a réalisé la belle opération du week-end en s'imposant 1-0 sur la pelouse du FC Metz. Barragiste avant le début de cette 18e journée de Ligue 1, le TFC se retrouve provisoirement en 14e position. Les Violets se sont imposés par le plus petit des écarts grâce à un pénalty obtenu et transformé par le capitaine toulousain Vincent Sierro. A noter que la première recrue de l'hiver, Yann Gboho, a effectué ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs en jouant le dernier quart d'heure. Mais c'est un adversaire qui réussit bien à Toulouse puisque la dernière victoire en championnat des hommes de Karl Martinez Novel avant ce dimanche après-midi était déjà contre le club lorrain en octobre au Stadium, c'était 3-0.
Victoire en Spike League pour les Spacers.
Les volleyeurs toulousains ont conjuré le mauvais sort et mis fin à une petite série de 3 défaites consécutives. Ils recevaient vendredi l'Arago de 7, 10e, et s'en sont défaits 3-1 après 2-7 remportés dès le début de la rencontre. Toulouse, aujourd'hui 5e, a chancelé et s'est fait peur avant d'arracher la victoire.
Le plus vieux licencié de judo d'Occitanie est toujours sur le tatami.
Jacques Bosque a donné son nom au dojo du village Le Monta, près de Cahors, dans le Lot, depuis 63 ans. Il est licencié à la Fédération Française de Judo. À 91 ans, Jacques Bosque est le plus vieux judoka en activité d'Occitanie. Pratiquement tous les mardis soirs, mais pas seulement, il enseigne et transmet sa science du judo. Son fils Benoît et son arrière-petit-fils Jessim partagent la même passion que le patriarche. Benoît est devenu lui aussi instructeur. Grand et fort, Jacques avait commencé par jouer au rugby à 13 pendant 10 ans avant de se tourner vers les arts martiaux.
À noter aussi que Rodez, il y a eu un match où j'ai pensé à vous, Coraline, Rodez-Pau en Ligue 2. Voilà, le 7e contre le 5e.
Ouais, duel entre Corentin et Coraline.
Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est Corentin qui a gagné. C'est Rodez qui a gagné 2-1.
Ah, voilà.
Voilà. La fierté avéronnaise. Il n'est pas avec nous. Ah, ça y est. Est-ce que vous l'avez vu, Corentin, le match? C'est des bons petits matchs de Ligue 2, ça, en plus. Hein.
Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas regardé la Ligue 2. Il y avait un très beau choc de Première Ligue et la Coupe d'Europe. Et donc, il a fallu faire quelques choix. Et
on n'a pas 12
j'ai
écrans.
J'ai pas l'abonnement pour la Ligue 2.
et oui, donc d'ailleurs, ce duel entre Rodez et Pau. Pas mal en Ligue 2, Rodez 7e, Pau 5e. Ça fait plaisir. Ils vont peut-être pas jouer la relégation cette année. C'est plutôt agréable. C'est encourageant pour les clubs de la région.
C'est sûr.
C'est surtout ça, en effet, parce que en Ligue 2, Pau,
généralement,
Rodez,
ouais,
y a
fait.
Oui, et même, on ramène Pau, parce que théoriquement, ils sont pas dans la région.
Oui, non, mais bon, dans l'idée, on a beaucoup d'auditeurs du côté de Pau, donc on en profite.
C'est pas loin, c'est vrai.
C'est pas loin. Puis moi, je fais ça pour Coraline.
À vol de podcast, c'est pas loin.
À vol de podcast. Oui, c'est vrai que sur les sites internet.
On mérite, on peut leur shipper Pau, hein, franchement. Voilà, on leur
oui, non, mais ça fait plaisir de voir Pau pas loin. Là, Pau, on s'attend pas à voir le Pau FC voilà, en Ligue 2, être 5e, c'est bien.
Oui, c'est bien.
On peut se réjouir quand même, non?
Mais tout à fait.
Chez les voisins.
C'est surtout que c'était pas gagné quand ils sont montés, le Pau FC. Tout le monde pensait qu'ils allaient faire l'ascenseur. Et ils s'installent.
Et ils ont un très joli maillot, d'ailleurs. Bleu et jaune.
Oui.
Ça rappelle les couleurs de l'MFC, le club de foot de Montauban. Voilà, c'est tout. C'était le petit coup de cœur. Tout de suite, on passe au top et au flop.
Les tops et les flops.
Et pour cela, on va commencer par vous, Corentin, du côté de l'Aveyron. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a intrigué ou surpris ce week-end?
Alors, on va commencer par mon top et parler un petit peu du Dakar. Et on va se demander si c'est la bonne année pour Sébastien Loeb. Chaque année, lui, il a toujours des petits pépins, quelqu'un qui se met sur sa route. Problèmes mécaniques, stratégie d'équipe, conditions météo ou alors un Nasser Al Attiyah impérial. Mais cette année, l'horizon s'éclaircit avec l'abandon de beaucoup de rivaux, dont le français Stéphane Peterhansel et le vainqueur de l'édition précédente Nasser Al Attiyah. Sébastien Loeb est déjà à 3 victoires en spécial cette année, dont 2 consécutives. Alors aujourd'hui, il n'a pas gagné, mais ça lui permet quand même de faire un petit peu son retard sur l'inusable Carlos Sainz, premier du nom. Il pointe aujourd'hui à 30 minutes, il a perdu un petit peu de temps sur l'espagnol. Mais j'espère en tout cas pour l'Alsacien que je vais revenir lundi prochain avec un nouveau top et que ce sera pour vous annoncer qu'il a gagné le rallye du Dakar.
Ça fait plaisir.
Et en flop, on va... Pardon ?
Ça fait plaisir aussi.
Ça ferait plaisir, oui. Et puis ça serait bien pour lui parce que ça va, voilà, ça va compléter un petit peu sa légende après les titres de rallye avec Pikes Peak, etc. Voilà, ça reste quand même un sacré sportif français dans le sport automobile.
Et votre flop ?
Et en flop, du coup, je vais vous parler du championnat d'Europe de hand avec la France qui a piétiné un petit peu face à la Suisse. Donc, dans ce championnat d'Europe, les hommes de Guillaume Gilles se sont heurtés à un mur et à une stratégie plutôt redoutable des Suisses. Un match nul qui met en avant surtout les carences offensives et défensives de cette équipe qui peine à se trouver et qui avait déjà encaissé 29 buts face à la Macédoine malgré une victoire assez large. Pas de quoi s'inquiéter pour autant, la qualification n'est pas compromise, mais il faudra, quoi qu'il arrive, s'imposer demain soir contre l'Allemagne, pays hôte de la compétition et redoutable nation de handball. Un avertissement sans frais pour l'équipe de France, mais voilà, on espère là aussi que ça va leur permettre peut-être de se réveiller, de pouvoir lancer comme il faut maintenant leur championnat d'Europe et d'aller jusqu'au bout.
T'as une question, vous avez parlé, Corentin, de Sébastien Loeb. Est-ce qu'on peut le mettre en tant que meilleur sportif français de tous les temps?
Ah, moi, je pense qu'il est dans le top 5, oui. Oui,
dans
oui,
le top 5 Coraline, est-ce que Sébastien Loeb est potentiellement le plus grand sportif français de tous les temps?
Plus grand, je ne sais pas, mais en tout cas, il est dans les meilleurs, dans le top 10, ouais, ça c'est sûr et certain.
Top 10
et on peut mettre à côté d'un Teddy Riner, par exemple.
Teddy Riner,
c'est pas vrai. Sébastien Loeb, c'est 9 championnats du monde des rallyes. dans tout ce qu'il a fait dans le Dakar électrique, enfin dans les épreuves électriques.
La même le Dakar, extrême, le Dakar, il est quand même très
oui,
bon.
Il est souvent second.
Oui, voilà, non, mais second, c'est
pas un Peter Hansel, mais bon, voilà. Mais
déjà, les sports
Stéphane Peter Hansel aussi, très bon d'ailleurs.
Déjà, les sports automobiles, je trouve qu'on part toujours du principe du sport d'équipe qu'on ramène toujours au pilote, et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut peut-être plus généraliser, et après, je suis d'accord que peut-être c'est notre génération, mais effectivement, ce Teddy Riner, c'est celui qui vient en premier, je pense, quand même, dans les esprits pour celui qui serait potentiellement le plus grand champion français, avant, bien sûr, Léon Marchand, qui le sera prochainement.
Ça prend des risques.
Ça prend des risques, oui, effectivement. Pour Toulouse, ça serait.
On est loin des petits sportifs, là, quand même. Hein. Léon Marchand, c'est quand même ça commence à être une valeur sûre.
Ah oui, écoutez, je prends des paris, mais je prends des cotes à 1.01. Hein. Je ne vais pas prendre trop de risques.
Très bien. Coraline, votre top et votre flop. Merci, Corentin.
Mon top, ça sera pour la belle prestation de La Rochelle face à Leicester hier. Il n'avait pas le choix. S'il voulait poursuivre l'aventure européenne, il fallait impérativement gagner. La Rochelle ayant perdu ses deux premiers matchs. Victoire donc des Maritimes ce week-end 45-12. Bonus offensif largement mérité avec 5 essais inscrits côté Rochelais. La copie était presque parfaite devant un stade comble et une ambiance de feu. Même en infériorité numérique, les Rochelais à 13 contre 15 pendant 10 minutes réussissent l'exploit non seulement de défendre leur ligne, mais en plus d'aller marquer un essai. Selon l'ombre au tableau, l'indiscipline, pas moins de 3 cartons jaunes, dont 2, je le disais au même moment, qui auraient pu coûter cher. Autre point noir, Bourgarit, qui faisait son retour, a dû laisser sa place précipitamment à l'Espioc suite à une blessure à l'épaule de nouveau, qui semble grave quand même quand on voit le joueur sortir avec les larmes aux yeux. Voilà, donc ça c'était pour mon top, et mon flop, c'est pour Nadal. Il fait peine, ça fait mal au cœur de voir un champion comme lui, qui manifestement a du mal à prendre sa retraite, absent depuis plus d'un an pour cause de blessure. L'Espagnol était à Brisbane la semaine dernière. Après 2 victoires, il se blesse à nouveau, déclare forfait pour l'Open d'Australie pour cause de déchirure musculaire. Le Big Four, c'est terminé, on le sait, avec la retraite de Federer, mais il serait peut-être temps que Rafael Nadal prenne lui aussi sa retraite pour qu'on salue cet homme aux 22 grands chelems.
Oui, c'est un peu la bête blessée, Nadal.
Ouais, il termine mal. Je pense qu'il aurait dû terminer.
C'est un peu se raccrocher
terminer
à son ex, quoi. C'est...
Ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est, je ne veux pas terminer, mais si, encore un peu. Non, mais non. Mm. Mais après, il aurait dû terminer, à mon sens, il y a un an et demi, quand il avait remporté le Roland-Garros, puisque Roland-Garros, on sait qu'il a...
C'est avec le match incroyable contre Djoko.
Exactement. Il affectionne particulièrement le Roland-Garros, et je pense que ça aurait été une belle fin de carrière, déjà qu'il était pas très bien en point physiquement.
Ouais, avec le super carte contre Zverev aussi, où Zverev se blesse, je crois. C'est pas celui-là, ce Roland-Garros là?
Si.
C'est ça.
Il me semble que c'est celui-ci.
Ouais, absolument. C'est vrai que. Après, le problème des bêtes blessées, c'est que quand il y a toujours un moment où elles reviennent d'aplomb et où elles font mal.
Que ça sera Roland-Garros justement.
Peut-être en dernier.
J'espère que ce sera l'ultime. Mais je pense qu'il veut terminer sur un Roland-Garros parce que.
Ou les Jeux Olympiques.
Oula.
Il va falloir faire un choix, il pourra pas faire les deux. Hein.
Non.
Ouais, ça va être compliqué de faire les deux. Hein. Soit il tire sur sa compétition, soit il participe au JO, sachant qu'en face, c'est le tournoi habituel. Quoi.
En plus, est-ce que la délégation espagnole ne voudra pas privilégier qu'Alcaraz, hein.
Alcaraz, ouais, c'est vrai. Qui est un des poulains de Nadal d'ailleurs.
Oui, puis accessoirement, Roland-Garros. Je pense que Nadal a un tel attachement à Roland-Garros que je pense qu'il préfère quand même terminer sur Roland-Garros. Même si oui, les JO, c'est les JO. C'est une.
Il est déjà médaillé, Nadal, il me semble, aux JO. Si je dis pas de bêtises.
En double.
En double, oui. En double. Ben voilà. C'est bien, on a fait le tour du sujet. On parle de tennis, ça fait du bien de parler de tennis. On n'en parle pas souvent, d'ailleurs on rappelle que Hugo Gaston et Benjamin Bonzi vont jouer ce soir à l'Open d'Australie. Ce soir, cette nuit même, parce que c'est à 1h du matin. Donc ce sera aussi à suivre, c'est une bonne nouvelle pour Hugo Gaston qui se remet un petit peu vers l'avant pour bien commencer cette année 2024. Erwan, il me semble que dans votre top, il y a un changement de dernière minute.
Ah oui, de mon top et mon flop, changement de dernière minute, parce que j'avais préparé, j'avais révisé mes devoirs, et puis au dernier moment, je me suis dit à quoi bon, faut laisser parler un peu la passion, et effectivement, donc pour le top, j'ai décidé de vous parler d'une vidéo que j'ai découvert aujourd'hui, et qui est en fait une interview de Mbappé, faite par Prime Video, sortie et donc par le journaliste Pierre Niguet. Voilà, je voulais absolument voir son nom, parce qu'il fallait souligner la qualité de cette interview. Elle est disponible gratuitement sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir d'abonnement Prime Video. C'est une interview qui a été faite dans le cadre de la remise du prix de joueur du mois d'Mbappé, donc pour le mois de décembre en Ligue 1, par l'UNFP. Et franchement, c'est vraiment intéressant. On a très rarement des interviews comme ça. Ça parle uniquement de jeu, de fond de jeu, de foot, de manière dont réagit l'attaquant, dont évolue un attaquant. Ça étudie tous les buts clés de Mbappé en passant sur au moins une vingtaine de buts différents de Monaco jusqu'au à ces derniers mois avec le Paris Saint-Germain. À chaque fois, Mbappé décortique complètement le geste et la manière dont il a évolué sous les différents entraîneurs avec le maillot monégasque puis parisien. Et franchement, c'est un régal. On connaissait pas ce côté de Mbappé très pédagogue où il est capable d'expliquer parfaitement ce qu'il fait avec le ballon, et franchement c'est vraiment extrêmement intéressant à écouter et même à regarder avec les buts, parce que ça rappelle des jolis buts quand même. Et donc voilà, je vous invite à aller la voir. Comme j'ai dit, elle est disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne donc YouTube de Prime Video, et elle dure un peu moins d'une vingtaine de minutes, et c'est vraiment génial.
Pour ceux qui aiment le foot, oui, c'est vrai qu'elle est intéressante, oui. Mais Pierre Niguet est à l'équipe avant, il me semble, et est passé maintenant à Prime Video chez Amazon, donc non, c'est bien. C'est à voir. Voilà, Coraline, est-ce que ça sera à voir? Vous qui n'êtes pas forcément fan de foot.
Ça peut être intéressant, justement, que ça soit analysé par le joueur.
C'est une autocritique en plus, donc c'est toujours intéressant de voir un sportif avoir un avis sur ce qu'il a fait. Même si je pense qu'il dit que des fois c'est très bon, mais.
Souvent, il dit que c'est
très bon. Après, c'est Mbappé.
Après, il dit souvent que les autres sont très bons. Par exemple, la passe a été très bonne, notamment Di Maria, il met beaucoup en avant Di Maria. Oui. Voilà, et il met beaucoup en avant le déséquilibre créé par Léo Messi et Neymar dans ce qu'il avait. Et
c'est pas mal quand même comme coéquipier.
C'est vrai
pas,
que bon, voilà, il y a pire.
Il y a pire. Et votre flop ?
Et pour mon flop, initialement, je voulais prendre la blessure des Rochelais, donc Danti et Bourgarit, qui est un coup dur pour le Stade Rochelais et pour l'équipe de France. Mais au final, comme Coraline l'a un peu évoqué dans son top, j'ai pris celui que j'avais hésité à prendre au début, qui est le Stade Français en Coupe d'Europe.
Oui.
Le Stade Français, c'est
compliqué.
C'est compliqué. J'ai même envie de dire, excusez-moi les termes, mais c'est honteux. Et le Stade Français n'assume pas du tout son statut et ne fait même pas semblant d'essayer de faire croire.
C'est ça le pire.
Aux autres qu'ils ont envie de postuler à cette compétition. Pourtant, il y a eu un phénomène assez étrange au Leinster, c'est qu'on avait vraiment l'impression que les joueurs voulaient jouer cette compétition. Très sincèrement, si vous avez regardé le match, alors qu'il n'était pas d'un grand intérêt, donc vous inquiétez pas, je pense que personne ne va vous en vouloir si vous ne l'avez pas vu, mais on a vraiment vu que les Parisiens, surtout pendant les 20 premières minutes, voulaient vraiment résister. Ils avaient une sorte d'effervescence, de ferveur, à se dire on joue quand même contre le Leinster dans un Aviva quasiment complet, c'est un match de légende, et notamment après le match, il y a Zach Henry, l'ouvreur du Stade Français, qui a dit que c'était son rêve de gamin de jouer à la Champions Cup. C'était son premier match de Champions Cup, puisqu'il était passé notamment par la Nationale et la Pro D2 avant d'arriver à Pau, qui ne jouait pas à la Champions Cup, peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Et donc voilà que le Stade Français, c'était la première fois qu'il jouait dans un aussi grand stade, devant un club aussi légendaire. Il a dit que c'était vraiment un plaisir pour lui, mais on a vraiment l'impression que les joueurs n'ont pas eu les armes nécessaires pour pouvoir jouer, soit à cause de la préparation, qui était peut-être pas essentielle, ou peut-être le Stade Français a préféré préparer les prochaines échéances de top 14, soit parce que tout simplement l'équipe envoyée n'était pas forcément compétitive sur tous les fronts. Et c'est pas que au Leinster, contre Sale c'était pareil. Contre Leicester aussi, le deuxième match à Jambouin, pareil, le Stade Français s'était complètement fait humilier. Et voilà, surtout quand on voit les réponses après que donnent des équipes comme La Rochelle contre Leicester, à quel point ils les ont balayés en faisant un match super, faut pas nier le super match de La Rochelle, c'est vraiment triste pour le Stade Français.
Après, Montpellier avait pris 89 points contre Leicester, ils ont fini l'année champion de France.
Ah oui, mais champion de France, pas champion
il y a deux ans. Non, mais
après. Pour le coup, vous avez raison, parce qu'il ne faut pas enlever le fait que Montpellier, la fois où ils se prennent donc cette pige monumentale contre le Leinster,
89-7,
je crois qu'il y a d'ailleurs le plus gros écart de l'histoire de la compétition. Ils l'ont volé à un match entre Clermont et les Zèbres, je crois. Mais l'année d'après, Montpellier va donc se qualifier en huitième de finale, réalise un huitième de finale absolument sensationnel contre les Harlequins et a deux doigts de les éliminer. Voilà. Et au final, on peut dire Vendée chèrement sa peau contre les Harlequins. Et donc voilà, on se dit peut-être que le Stade Français aurait pu faire de même si jamais ils avaient joué ne serait-ce qu'un match un peu sérieusement. Mais voilà, on est à la troisième journée. Quasiment toutes les équipes sont encore en course pour la qualification en phase finale de Champions Cup.
Un peu mitigé, ouais, sur les
résultats. Sauf le Stade Français.
C'est la seule équipe éliminée. Exactement, ils ont un point pour l'instant et c'est la seule équipe française du coup ne pas être qualifiable. Et Toulouse, Lyon et Bordeaux, si je ne me trompe pas, eux sont déjà qualifiés.
Mais c'est même la seule équipe tout court d'Europe à être déjà éliminée d'une Coupe d'Europe de rugby.
Sachant que Bayonne en a pris 61 face à Northampton. Oui. Mais oui, ils ont fait match nul au Munster et perdu d'un point face aux Harlequins. Oui. Pas du tout.
Non, au Glasgow.
Au Glasgow Rangers. Voilà. Pas du tout. Ça, c'est le club de foot à Glasgow.
Glasgow Warriors.
Voilà. On mélange tous les sports, c'est incroyable. Faut arrêter de regarder trop de sports, ça embrouille le cerveau. Bien, merci pour ce tour de table. Évidemment, on retrouvera d'autres top et flop à suivre cette semaine et on en parlera la semaine prochaine. Tout de suite, je vous propose de sortir le maillot et les rames. Il est l'heure de parler d'Aviron, mais de Montauban.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, premier entretien sur un sport qui est olympique. Vous le savez, les JO 2024 vont avoir lieu cette année. Et aujourd'hui, nous parlons d'aviron et nous prenons la direction de Montauban pour retrouver Christine, la présidente du club d'aviron, du premier club d'aviron de Montauban, de l'Union Nautique Montalbanaise. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, comme je viens de le dire à l'instant, le club il a été fondé en 1905 et c'est le premier club d'aviron de la ville.
Oui, c'est ça. En fait, y en a eu plusieurs sur la ville et puis après, il y a eu une unification des deux clubs. Mais là où on est actuellement, il a été créé en 1905 et voilà, avec une très très belle histoire de ce club, un très beau site. On a 9 km sur le Tarn, juste quasiment au cœur de Montauban. Et voilà, un club historique. Vraiment, quand on passe au club, on a toutes les photos des anciens rameurs, de tout le palmarès qu'il a eu. Et puis, nous, on a repris l'aventure, l'équipe a repris l'aventure il y a 5 ans. Et on a le privilège d'écrire une petite page de son histoire. Bon, on a la fierté d'avoir écrit tout un chapitre les deux saisons dernières avec des résultats qui n'avaient pas été égalés depuis 40 ans, mais vraiment une grande fierté de vivre une histoire, une part de l'histoire de ce club.
Alors on connaît le rugby à Montauban, maintenant on connaît l'aviron, mais pour tous ceux qui ne voient pas ou voient de très très loin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce sport qu'est l'aviron, comment ça se déroule, comment ça se passe?
Oui, alors l'aviron c'est un petit peu confondu avec le kayak, mais le kayak on voit vers où on va. Nous on tourne le dos à la destination, on utilise nos jambes, nos bras et notre buste pour déplacer le bateau en marche arrière. Et nous on sait que c'est un sport complet qui est accessible à tout âge. Et puis il n'y a pas d'à-coups pour le corps parce que c'est un sport porté. On est assis dans le bateau. Et on va chercher une technique symétrique, il n'y a pas de torsion du corps ou quoi que ce soit. On va utiliser toutes les parties et tous les muscles du corps pour faire glisser le bateau. Alors, faut pas le répéter, j'ai tendance à dire que c'est un sport de feignant parce que plus on est efficace dans la propulsion, plus le bateau va glisser et plus on va vraiment profiter de cette glisse. Bon, je vous cache pas, les compétiteurs, ils le voient pas du tout comme ça et vraiment, c'est un sport complet, mais d'endurance et de glisse. Et puis, un sport de plein air. Et moi qui viens de la région parisienne, dans le sud, franchement,
ah oui,
on en profite. Voilà.
Ah oui,
on adore. Voilà, on adore. Après, même l'hiver, on est dehors. C'est vraiment un sport qui vide la tête. Technique, hein, je vous le cache pas. Bon, les jeunes arrivent à l'acquérir très, très rapidement. Les adultes, moi, je m'y suis mise adulte. On a besoin de plus de séances, mais... pour ceux qui connaissent pas, moi la seule chose que je dis c'est venez essayer, vous aimez pas, mais vraiment en une séance d'initiation, en une heure de sortie, on vous met sur des bateaux adaptés et vous voyez la galère que c'est, mais vous voyez aussi la sensation de glisse que ça peut apporter. Et vraiment, en général, enfin tout le temps, il y a le sourire qui arrive à la fin en disant « Ah ouais, ok, c'est ça l'aviron, c'est ça que ça peut m'apporter ». Et voilà, et 30 ans plus tard, on est toujours accro et avec des moments vraiment géniaux.
Justement, voilà. Vous en avez parlé de cette sensation de glisse, parce qu'on n'est pas vraiment… vraiment porté par l'eau, le bateau vraiment, on va pas dire il vole, mais il glisse littéralement sur l'eau.
C'est exactement ça, vraiment on va chercher la propulsion grâce aux avirons. Alors déjà le nom, c'est le nom du sport, aviron, ça vient du nom des rames, voilà, c'est nos rames, on rame avec des avirons, c'est ces longues pelles aussi, on les appelle des pelles, qu'on utilise. Et puis, on va les poser délicatement sur l'eau, sous la surface de l'eau, et on va propulser jambes, bras, et ensuite, on revient tranquillement pendant que le bateau glisse. Et puis, eh ben, techniquement, individuellement, il faut qu'on apprenne cette technique, ce mouvement. Et puis, c'est un sport d'équipe. Certes, ça se pratique seul, mais très vite, on passe à 2, à 4 ou à 8 rameurs. Et donc là, vous imaginez qu'individuellement, il faut bien faire le mouvement, mais il faut être coordonné et ensemble avec le reste des coéquipiers. On ne fera jamais avancer un bateau tout seul si on est décalé avec les autres partenaires. Donc vraiment, il y a cet esprit d'équipe qu'on peut retrouver dans d'autres sports. Hein. Il y a pas, voilà, c'est vraiment comparable, mais il faut être ensemble et on a beau ramer depuis des années, quand il y a des matins on n'y arrive pas, et ben quand on n'est pas ensemble, le bateau il va pas glisser. C'est vraiment optimiser cette glisse par notre technique individuelle, mais le côté ensemble et cohésion d'équipe.
On a l'image du bateau avec celui qui est tout devant face à l'objectif, qui tape sur un tambour avec ceux qui rament devant pour leur donner le rythme, pour pagayer un rythme et pouvoir aller plus vite, pour être accordé. Oui, c'est un véritable esprit d'équipe, mixte aussi, puisqu'il y a des catégories hommes, des catégories femmes, des poids légers aussi. Voilà, c'est adapté à tout le monde au final.
Exactement. Et puis, ne pas oublier le handi aviron, qui est donc c'est un sport accessible à tous. Il y a du para aviron qui est tout à fait accessible. On a des médaillés sur cette catégorie-là aussi. Donc, vraiment, c'est un sport accessible à tous. Il n'y a pas de la technique peut s'adapter, les bateaux. Nous, c'est notre objectif de développer cette section handi, mais vraiment accessible à tout âge et à toute catégorie. On peut sortir de longues maladies, on peut ne pas avoir fait de sport pendant des années, on peut au contraire avoir plutôt une performance dans les jambes, mais une faiblesse un peu au niveau des bras. Il y a du renforcement possible. Enfin, vraiment, c'est. Et puis, les féminines, c'est un sport très féminin. Il y a des côtés loisirs, il y a des fois, on arrive à faire un équipage de 8 féminines et.
Oui.
Et voilà, ouais, c'est vraiment, on est une centaine d'adhérents, on est une centaine d'adhérents, et vraiment, il y a moyen comme on va d'abord chercher la glisse, il n'y a pas besoin de puissance au début. Vraiment, la puissance, elle viendra que si la technique est là, donc vraiment, c'est un sport accessible.
La puissance, c'est rien sans la technique, au final.
Voilà,
et puis la technique, vous l'avez dans votre club, puisque vous êtes, on va dire, incubateur de talents, de médaillés. Puisqu'il y a quelques saisons en arrière, vous avez eu plusieurs résultats en médaille de France, en mer et en rivière, en championnat d'Europe, avec l'équipe de France, il me semble.
C'est ça. Ces deux dernières saisons, on a eu un jeune sélectionné en équipe de France U19, donc c'est moins de 19 ans. Et il a eu les championnats de France. Alors, il y a plusieurs, je reviens juste sur les activités. On peut faire de la compétition, du loisir, mais on peut être en rivière, en mer et en salle, ça s'appelle en indoor, que sur les ergomètres, mais c'est très complémentaire pour notre activité sur l'eau. Et donc ce jeune a fait vice-champion de France en salle, il avait fait champion de France l'année d'avant, il est sixième européen, en bateau à deux avec un coéquipier, il est champion de France, il est vice-champion d'Europe. Et j'ai eu la chance de le voir au championnat du monde à Vers-sur-Marne, qui est le bassin olympique, et il a fait quatrième mondial. Donc vraiment, on est ravis de son parcours. Et là, il poursuit en équipe de France. Et peut-être que dans 4 ans, on le verra dans l'équipe de France sélectionnée. Voilà, on le suit, on est derrière lui. Et puis, ses coéquipiers du club, ils ont fait second au championnat de France et puis divers podiums, dont le beach rowing. Alors ça aussi, c'est une activité qui sera...
C'est un terme bien technique.
Oui, alors non, c'est complètement anglais. C'est plage ramée et plage. Et en fait, ils courent sur la plage, ils montent dans leur bateau, ils font un parcours sur l'eau, ils reviennent et ils viennent buzzer
Ah oui,
pour battre l'adversaire.
Toujours cet
et en
aspect
fait
de compétition.
Ouais, et le beach rowing, eh ben on en reparlera dans 4 ans parce qu'ils seront sélectionnés au JO de 2028. Voilà, il y a cette nouvelle activité qui va arriver.
On parle beaucoup d'eau puisque l'aviron se pratique principalement sur l'eau et votre club du côté de Montauban sert aussi de la prévention noyade. On en parle beaucoup l'été. Il y a aussi des ateliers du côté de chez vous.
Exactement. On a notre partenaire Aesio qui a, grâce à lui, avec la MSS 82, ils sont venus faire un après-midi prévention de la noyade et puis les gestes d'urgence après, mais on est vraiment sur une prévention complète. Et vraiment, cet atelier, chaque année, on en fait un et on explique aux jeunes comment éviter l'accident, comment éviter quoi faire si le bateau se retourne. Hein. On n'est pas à l'abri d'un incident à ce moment-là. Et puis, l'atelier a permis d'aller jusqu'à les gestes d'urgence en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Vraiment, les jeunes sont sensibles à ça, pas inquiets. Ils savent très bien que ça fait partie du risque de ce sport. Il y a très peu d'autres risques parce que, comme je vous disais, il n'y a pas d'à-coup, tout ça. Donc, physiquement, il y a très peu d'accidents, mais il y a ce côté risque de noyade et donc ils sont on tient à les sensibiliser ainsi que les loisirs sur ce risque de notre sport, mais tout est mis en place, hein. Il y a des sécu, le bateau est adapté au niveau du rameur, hein. On n'apprend pas sur un bateau qui fait la largeur de notre bassin et qui à tout moment on peut
oui,
se retourner,
oui.
On est vraiment dans un sport sécurité et plaisir avant tout.
Justement, ce sport, on va le voir à la télé cette année avec les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous attendez en 2024 de cet événement planétaire mondial qui arrive en France?
Ah, et déjà, il arrive en France, donc on est très heureux, quoi, de vivre ça de l'intérieur. Certains d'entre nous avons pu avoir des places sur la région parisienne pour suivre. Et puis, c'est des rameurs qu'on suit depuis déjà il y a 4 ans, parce qu'ils étaient qualifiés, enfin, ils étaient médaillés avec les féminines, Claire Beauvais, Tarantola, deux rameuses féminines qu'on suit et qui sont vice-championnes olympiques. Et puis on a des champions olympiques aussi il y a 4 ans et les posters sont dans notre club, hein. Je vous le cache pas, c'est nos modèles.
C'est une vraie fierté.
Il y a aussi. Ah ouais, et puis c'est comme dans tout sport, hein. On les suit. Il y a le paraolympique avec des médaillés aussi il y a 4 ans. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a 3 bateaux déjà sélectionnés, 3 équipages déjà sélectionnés pour 2024. Et puis, on suit les différentes sélections. Et puis, on a la chance que le bassin pour les championnats de France bateau court. Alors, bateau court, c'est à 1 ou 2 rameurs. Avec seulement un aviron quand ils sont à 2, ils ont un seul aviron dans la main. Ça s'appelle de la pointe, c'est une autre catégorie. Et ça se passe, les championnats de France se passent à Cazaubon, dans le sud-ouest. Et donc, je peux vous dire que chaque année, on va les suivre, même si quand on n'a pas de rameur de notre club.
Vous pouvez facilement vous identifier à ces sportifs olympiques qui vont y participer. Et on rappelle en plus que la France, elle compte dans le monde de l'aviron, puisque aux derniers Jeux olympiques, il y a eu une médaille d'or en deux de couple hommes et une médaille d'argent en deux de couple poids léger féminin. Donc
c'est
vraiment, c'est la France compte au niveau olympique en aviron. Donc on peut quand même un peu espérer beaucoup de choses dans ces Jeux olympiques.
Exactement, exactement. Et puis comme je vous dis, on les a côtoyés, on les a vus. Nos jeunes se sont, les rameurs, les compétiteurs, enfin les champions olympiques ont accepté d'être pris en photo. Ouais, c'est des champions. Ont accepté d'être pris en photo. Donc vraiment, ça fait des souvenirs et des modèles pour nos jeunes. Et puis là, 2024, on est derrière eux sur les réseaux. On va être derrière eux
sur le bateau.
Bassin, ouais. Alors non, voilà. Mais au bord du bassin, je peux vous dire que ça va crier. À leur côté, parce que vraiment, c'est des. À tout niveau, hein, c'est qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, comme tout sport, les jeunes s'entraînent durement. Hein. Nous, ils sont à 5 entraînements par semaine pour des moins de 16 ans. Donc, 3 sur l'eau et 2 en salle pour faire le renforcement musculaire. Donc, voilà, tout le monde se donne à fond. Et certes, bah, c'est la course qui va compter avec bah, les conditions de pratique ce moment-là, de comment le rameur se sent. Mais vraiment, on félicite en général tous les participants parce qu'on sait tout le travail qu'il y a eu en amont pour les compétiteurs, quel que soit le sport. Hein, on sait que c'est... Mais voilà, c'est un sport difficile parce que de plein air, quand il fait beau, tout va bien.
Oui, mais c'est vrai qu'on pense beau, quand il fait chaud, c'est agréable. Voilà. Quand il fait froid, là, notamment maintenant, ça doit être assez compliqué.
Et ben, ils y vont, les
ils
jeunes.
Ils y vont quand même.
Ils sont sous la pluie et... Voilà, une fois j'ai eu la chance de barrer les jeunes, donc c'est moi qui donnais la direction et il s'est mis à pleuvoir. J'ai dit vous voulez faire demi-tour et les quatre filles m'ont dit bah non, bien sûr que non.
Bon, on y va. On est déjà dans l'eau alors.
Exactement, on est sur l'eau mais c'est pas un problème. Voilà.
Et est-ce qu'en 2020 après les JO de Tokyo, là où il y a eu les médailles d'or et d'argent, est-ce que vous avez vu une augmentation, alors peut-être pas de licenciés mais d'intéressement à l'aviron?
Voilà. Alors c'est vrai que alors de licenciés pas trop, d'intérêt oui, on commence à être un peu plus vu. Bon, c'est il y a pas photo, hein, c'est un sport qui est un peu méconnu. On nous confond parfois avec le kayak, c'est pas grave. Moi ce que je dis c'est qu'il faut que tout le monde fasse un sport, quel que soit le sport. Mais l'aviron étant un peu moins connu, bah, c'est vrai que les JO et les médailles, les réseaux, la Fédération française d'aviron qui se met un peu en avant, ça nous amène des gens curieux et qui disent bah, « je vous vois tout passer tous les dimanches ou tous les samedis sur le Tarn, j'hésite, bah, venez essayer, il n'y a pas photo, il faut venir essayer ». On aime, on n'aime pas, mais voilà. Et les JO, bah, ça amène des gens un peu plus curieux sur un sport qui est enfin mis, grâce aux Jeux Olympiques, un peu plus en avant à la télé. Parce que bah, voilà, c'est
un sport qui à la télé s'y prête bien d'ailleurs, parce que ça fait, on peut voir de jolis paysages, on peut voir la vitesse à laquelle vont les gens, donc c'est assez incroyable. Puis on espère qu'il va y avoir un véritable engouement cet été. Justement, pour ceux qui veulent essayer ou se renseigner ou venir vous voir, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les réseaux sociaux peut-être, un lieu?
Oui, alors il y a les réseaux sociaux, on est sur Insta et Facebook. Après il y a le site, hein, vous tapez Aviron Montauban .fr et vous trouvez toutes les infos, dont mes coordonnées, et je réponds à tous les appels pour donner les informations. Après, sur la Ligue Occitanie, il y a 56 clubs, donc vraiment, si ça vous tente, si ça vous titille d'aller essayer, faut pas hésiter à passer un coup de fil dans un de ces clubs. Montauban, on vous accueille avec grand plaisir. Et puis, je vous dis, c'est un sport accessible à tous et à tout âge, et quelle que soit la condition physique. Et donc, il y a forcément un club pour vous accueillir, pour vous faire essayer, ça c'est sûr.
Faire du bien à l'esprit et au corps aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et j'en profite pour préciser que nous avons dans notre équipe Erwan, où son papa est un ancien champion de France. Voilà. Vous avez vu, les critères de sélection pour participer à l'émission sont très compliqués.
bravo à lui. Et puis, exactement ça, c'est une passion qui bah, j'espère qu'Erwan, il en fait, hein, de l'aviron, au moins qu'il ait essayé. En tout cas, un grand merci à vous, parce que voilà, on a peu d'occasion de parler de notre sport, et grâce à vous, bah, les sports olympiques sont mis en avant, et un grand merci à vous et à votre émission. Alors.
Voilà, et on mettra en avant d'autres sports olympiques un peu moins connus pour tout doucement aller vers ces JO. On rappelle, vous pouvez retrouver l'Aviron Montauban sur leur site internet avironmontauban.sportregion.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors Erwan, répondez à cette question de Christine Leclerc. Est-ce que vous faites de l'aviron, Erwan?
Malheureusement, non. Je ne suis jamais monté dans un aviron. Un aviron.
Voilà. Un bateau.
Un bateau. Alors, un bateau où on peut glisser dedans avec un rail. Voilà. Je ne suis jamais monté dans ce type d'engin, mais effectivement, mon papa était, d'ailleurs, s'il nous écoute, je l'embrasse.
Ancien
champion de France. Je ne saurais pas dire en quelle catégorie. Voilà, comme ça, de tête. Il me l'a dit plusieurs fois, mais je suis désolé, papa, je ne m'en rappelle plus. il était très fort dans ça, et voilà.
Et voilà. Eh bien, c'est ce qu'on a dit, les critères de sélection, il faut être minimum proche d'un champion de France pour participer. Ouais, Coraline, c'est championne de France de mangeage de galettes.
Ouais, et en avoir plein les chicots après.
C'est bien, galette des rois juste avant l'émission et c'est pas glorieux. Bon, Corentin est arbitre, non, on peut rien dire. Voilà, on peut rien dire à un arbitre, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort.
Ah si, quand même, on peut dire, on peut discuter. Moi, je suis un arbitre assez ouvert.
Ah, avec les oreillettes bientôt, on espère.
Avec les oreillettes, alors quand même pas. Non. la discussion, très bien. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un dans le cas régie qui m'appelle pour me dire que j'ai fait une boulette il y a 5 minutes. Quand tu fais une boulette, tu l'assumes. Et puis après, à la fin du match, on boit une bière vu qu'on est en district.
Allez, dans quelques minutes, on va parler du tournoi destination à J-18 avant le début du tournoi face à l'Irlande. Ce sera à Marseille. Comment tourner la page de la Coupe du Monde ? Eh bien, l'équipe d'Esprit Sport ce soir va essayer de vous donner des éléments et on se retrouve juste après ça. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two. D'abord la petite cloche, et eh oui, la petite cloche, parce que il est l'heure de tenter de répondre à la question du week-end à J-18 avant le tournoi des 6 nations. Comment tourner la page de la Coupe du Monde et comment bien attaquer ce tournoi des 6 nations ? Double cloche, réalisation à l'américaine, Erwan. Est-ce que vous avez des pistes? Vous qui suivez énormément le 15 de France, la plaie de la Coupe du Monde est peut-être en train de se refermer. Le tournoi destination arrive face à l'Irlande. Ce sera en février prochain face à, donc à l'Irlande à Marseille dans 18 jours. Et Juan, comment faire pour bien attaquer ce tournoi destination sans penser à ce traumatisme qu'a été la Coupe du Monde?
Bah déjà, ça va être commencer bien contre l'Irlande et commencer merci fort contre l'Irlande, commencer vite contre l'Irlande. Et vraiment, si on peut mettre une, excusez-moi du terme, mais une pige à l'Irlande, ça serait pas plus mal.
Voilà. Est-ce que... Alors, Dupont, pas Dupont?
Pas Dupont, ça c'est sûr pas qu'il Dupont. Fera pas le tournoi.
Du coup, comment sans Dupont, sans l'élément clé de l'équipe, hein, on va pas se le cacher, quand il est là, vraiment, ça apporte quelque chose, comment se passer de cet atout pour... tout en commençant bien ce tournoi?
Parce que Maxime Lucu est dans la forme de sa carrière. Je pense qu'il a jamais été aussi fort qu'actuellement. Et surtout, actuellement, il est dans une forme où, en fait, il s'est découvert un nouveau style de jeu. C'est-à-dire que Maxime Lucu, on a toujours su que c'était un éjecteur plus que quelqu'un qui allait enflammer le jeu, un dynamiteur. C'est le mot que je cherchais. Maintenant, il a trouvé le juste milieu. C'est-à-dire qu'en fait, il a compris qu'il avait un 10 qui demandait beaucoup le ballon et qu'il était peut-être pas constamment obligé de le servir parce qu'il avait un 10 qui demandait beaucoup le ballon pour jouer tout seul. Mathieu Jalibert, il demande le ballon pour attaquer la ligne. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'utilise le ballon pour l'envoyer à mes autres trois quarts, c'est-à-dire l'envoyer à mes centres, l'envoyer à mes ailiers, l'envoyer même des fois à des avants un peu plus percutants, notamment Ben Tamifuna qui est un monstre absolu, sûrement le meilleur pilier droit du monde. Enfin, à mon avis, c'est le meilleur pilier droit du monde. Et ça marche incroyablement bien, l'UBB. Enfin, il suffisait de voir le match contre les Saracens hier, c'était absolument sensationnel. Il est capable de faire jouer ses arrières et même son demi d'ouverture sans l'oublier, alors qu'il il lui passe moins le ballon, mais il le fait aussi bien jouer. Il a une espèce d'alchimie avec ses coéquipiers qui est folle. Et ce qui est arrangeant, c'est que ses coéquipiers, c'est Mathieu Jalibert qui va être titulaire au tournoi de destination parce que Tamac ne sera pas de retour. Ça va être Damien Penaud sur une aile et Louis Bielbiaré sûrement sur l'autre, qui sont tous les deux ses coéquipiers aussi en équipe de France.
Oui, c'est ce qui va faciliter l'entente entre deux joueurs en plus.
Bah bien sûr. Et donc moi je pense que c'est quelque chose qui c'est un atout non négligeable et qu'on n'attendait absolument pas pour l'équipe de France. Et ça va vraiment surprendre les Irlandais qui en plus sont en train de se reconstruire. Le Leinster est pas si impressionnant que ça, je trouve, au niveau du jeu. Certes, il gagne avec des gros scores.
Mais alors stade français.
Oui, mais quand on regarde les matchs, on n'est pas hyper impressionné. Alors après peut-être que Andy Farrell va nous surprendre. En changeant complètement sa charnière, en changeant complètement son organisation, et en maintenant des joueurs qui ont envie de prouver, mais j'y crois pas trop. Moi j'imagine bien l'équipe de France qui a envie de faire un gros score à Marseille. En plus, Marseille, le Vélodrome.
En plus, ça va être incroyable.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de stades plus.
Vous y serez?
J'aurais bien aimé, mais non.
Ah, dommage. Ça aurait été bien.
Oui, ça aurait été génial. Mais...
on aurait pu avoir une belle photo. Coraline?
Je n'y serai pas. Mais
non, mais c'est pour le débat. C'est comment bien attaquer ce tournoi de destination tout en ne pensant plus à cette Coupe du Monde.
Alors, l'avantage, c'est qu'on est en année paire. Et l'avantage des années paires, c'est qu'on reçoit plus que l'on se déplace. Et on n'a que deux déplacements qui sont du coup l'Écosse et le Pays de Galles. Donc, c'est quand même clairement un avantage.
C'est pas facile, hein. Écosse, Pays de Galles, en cette période en plus, de fin hiver, début printemps, mieux vaut aller en Italie quand même. C'est plus sympa.
Oui, mais mieux vous recevoir trois fois quand même.
Oui, c'est vrai.
Puis en plus, ça c'est bien parce qu'en plus le tournoi destination se déroule quand même ailleurs qu'à Paris, donc oui. C'est quand même une belle promotion justement pour le rugby français, bien qu'il y ait eu la Coupe du Monde récemment, hein, mais c'est quand même une belle promotion pour le rugby français. Comment justement tourner la page? Ben en effet, c'est gagner et avec la manière face à l'Irlande. Donc,
il y a aucun élément qui pourrait ternir un petit peu cet engouement post Coupe du Monde? Aucun syndrome du favori déchu trop tôt dans une précédente compétition?
Ben là, c'est avec. Est-ce que ils sont, on va dire, guéris mentalement de cette Coupe du Monde?
Il y en a qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre.
Et c'est normal.
Aldrit n'est revenu qu'il y a quelques semaines.
Il y a deux semaines, peut-être. Mais juste fin décembre, il est revenu. Donc pour le dernier match de décembre, il me semble. Donc il est revenu en effet que très récemment.
D'autres sont revenus très rapidement.
Mais
comme
parce qu'ils avaient besoin.
Rochelle, mais...
Movaca, oui. Est revenu,
Movaca est revenu très rapidement.
Mais parce qu'ils avaient besoin en fait. Ils avaient besoin de jouer et de passer à autre chose. Mais ce qui montre aussi qu'ils étaient quand même blessés mentalement. Donc là, reporter le maillot de l'équipe de France, sachant que la dernière fois qu'ils l'ont porté, ça s'était pas bien terminé. à voir comment ça va se passer justement. Après, il faut, on n'a pas le choix là. Je pense qu'il faut gagner contre l'Irlande pour justement faire un tournoi destination. Alors déjà, oui, c'est sûr que si on gagne contre l'Irlande,
c'est bien parti.
C'est quand même très très bien parti.
Est-ce que c'est la finale avant l'heure?
Bien sûr.
Attention, ouais, l'Angleterre, demi-finaliste de la Coupe du Monde.
L'Angleterre n'est pas si peur que ça. Le Pays de Galles, je pense qu'ils peuvent bien se relever.
Ils sont quand même bien en reconstruction.
Le Pays de Galles, je les ai trouvés en reconstruction, mais en belle reconstruction pendant les phases de poule de la Coupe du Monde. La défaite en quart de finale contre l'Argentine, pour moi, c'est un peu complètement. Ils ont passé à côté du match. Parce que l'Argentine, pour moi, est à un niveau bien en dessous. Donc, j'imagine le Pays de Galles. Si nous, on est revanchard. Je pense que le Pays de Galles peut l'être un peu, et en plus, c'est Pays de Galles, c'est beaucoup de joueurs qui ont que ça à prouver. Donc, je les écarterai pas non plus. Je pense que contrairement à ce qu'on croit, le nombre de
le Pays de Galles qui perd des joueurs, hein, Louis Jones, il joue plus, il jouera pas pour le Pays de Galles.
Du monde non plus.
Non, Dan Biggar, est-ce qu'il va la jouer?
Est-ce qu'il va le jouer? Non, Dan Biggar normalement non. Mais
donc déjà, c'est déjà de bons morceaux qui seront pas présents.
Après, c'est des joueurs qui étaient, faut pas se mentir, c'est des joueurs qui étaient plus si déterminants que ça que le Pays de Galles non plus. Voilà, donc
c'est impressionnant en club, mais un peu moins en national.
Même en club, Dan Biggar, il a été tout sauf impressionnant avec Toulon. C'est même été le plus mauvais joueur de Toulon, je pense, d'assez loin.
On se souvient de la blessure de Dan Biggar sur une pénalité où il court et il se blesse au dos sans toucher le ballon sur sa course d'élan.
Un calage, c'est ça, il me semble.
Je sais pas, il s'était fait mal au dos, juste au dos, il se tenait le dos et donc il n'avait pas tiré sa pénalité.
C'est mieux que Finn Russell qui prend de l'élan et qui l'envoie sous le poteau. Alors qu'il est à 2 mètres.
On aime bien se moquer des Anglais quand même, enfin des Britanniques.
Des Britanniques, oui, ensemble. Allez, gros bisous à Finn Russell, c'est un super joueur.
Les Écossais, on les aime bien parce que leur hymne est joli et qu'ils sont mignons en kilt, et puis après, ils nous font bien marrer, quoi. C'est très prétentieux quand même, hein, comme.
On vous a laissé passer, parler tout seul, hein.
Oui, j'ai bien vu ça, mais vous avez hoché de la tête. Dommage qu'elle soit pas filmée, cette émission. Corentin, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que pour vous, tout est bien après la Coupe du Monde? On s'est fait éliminer prématurément. On n'espérait pas se faire éliminer aussi vite. On pensait la gagner. Est-ce que pour vous, tout va bien dans le meilleur des mondes et on va bien commencer ce tournoi de destination?
Non, tout va pas bien. Après, il y a quand même 4 ans avant la prochaine Coupe du Monde. Ça dépend. Quel objectif s'est fixé Fabien Galthié et quel objectif s'est fixé le staff aussi?
Il y a beaucoup de nouvelles staff qui est parti d'ailleurs aussi.
Horizon, est-ce qu'il y a une nouvelle flèche du temps qui va être mise en place ou pas pour eux avec des objectifs? Mais pour moi, le quart de finale perdu d'un point, ça va rester un peu comme un spectre et il faut que ça reste un peu comme un spectre pour ce 15 de France là, avec à garder en tête les erreurs qu'ils ont commis sur le jeu aérien, sur le manque d'impact et voilà les largesses défensives qu'on a laissées à l'adversaire, parce que depuis tout à l'heure on dit il faut gagner contre l'Irlande, oui, mais il va falloir gagner bien. Je pense que cette année, si on fait un grand chelem, on sera pas content si c'est un grand chelem qui est fait raccro avec des victoires à 3 points, 4 points. Il faut être dominateur et pour ça je pense qu'il y a des gros chantiers pour le 15 de France, notamment le fait d'installer pas mal de joueurs qui sont champions du monde de moins de 20 ans. Je pense que Emilien Gaëtan a la place pour aller s'installer dans la ligne de trois quarts, par exemple. Pour moi, il faut aussi tourner la page de Jonathan Danti. On a vu que de jouer avec des joueurs avec un gros volume, avec du poids et de l'impact, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut essayer de jouer avec des joueurs un petit peu plus véloces, avec la stratégie bourrinée, peut-être qu'il faut en changer. On voit que l'UBB Toulouse, cette année, ça gagne pas mal avec certes un pack qui est très dominant devant, mais avec une ligne arrière qui est très mobile, qui joue bien au ballon. Essayons de profiter un petit peu de ça, de jouer avec nos forces qui sont là pour le moment. Et voilà, moi je pense que moi j'aimerais bien voir quand même quelques jeunes joueurs. Ouais, Gaëtan, Baptiste Jauneau.
Et Rouen n'est pas du tout d'accord avec vous, hein.
Comment?
Erwan, il me disait, je suis pas d'accord.
Ah, mais après, là,
il n'osait pas, vous couper, Erwan, qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais du coup, peut-être que Corentin veut finir avant que je le coupe.
Non, mais.
Avant que je le découpe, même.
Non, j'aurais pas cette prétention. Comme disait très justement Corentin, c'est juste des avis, on a le droit totalement de pas être d'accord.
Bah, évidemment, c'est tout l'intérêt d'un débat.
Mais c'est vrai que moi, par exemple, se passer de Danti, je vois absolument pas pourquoi. Pour moi, Danti, c'est vraiment. J'ai même envie de dire dans la tout le groupe d'arrière, c'est-à-dire du 11 au 15, c'est celui que j'enlèverais le moins, même avant Ramos. Pour moi, c'est vraiment on a personne de son profil. Il est très bon et je pense qu'il a un style de jeu qui peut jouer assez longtemps. Là, il a 31 ans, donc il aura 35 théoriquement à la Coupe du Monde. Il me semble, hein, si je me trompe pas sur son âge. Je fais de tête, mais voilà, Bundy Aki a montré qu'on pouvait être un centre de classe internationale en étant relativement âgé. Je crois pas vraiment en Gaëtan. Il a fait une excellente saison la saison dernière, mais j'ai un peu l'impression que c'était que ça s'est essoufflé beaucoup depuis. S'il faut mettre un 13, je pense qu'il faut mettre un 13 qui a des allures internationales, et je vais m'expliquer dans ce que je dis, c'est qu'en fait je pense qu'il faut mettre un 13 qui est aussi bon en défense qu'en attaque, et je pense que en France on a un 13 qui est parfaitement inscrit dans cette lignée, qui est, comme le disait Corentin, et c'est là où je le rejoins, dans la ligne de ce que propose l'UBB, qui est effectivement une bonne piste à suivre, je pense, et qui est Nicolas Deporter. Nicolas Deporter, il est absolument sensationnel, et je pense qu'il a déjà le niveau pour jouer au niveau international.
C'est directement face à l'Irlande au tournoi de destination, en match d'ouverture, comme ça.
Alors, moi je suis pas fait mes galtiers, et je sais pas mon
boulot.
Non,
vous avez pas les mêmes lunettes,
hein, c'est j'ai pas les mêmes lunettes, et j'ai pas les mêmes petites boucles dans les cheveux, et j'ai surtout pas les mêmes responsabilités, c'est-à-dire que je me permets de dire que je mettrai Nicolas Deporter sur la feuille de match.
Mais vous prenez pas la responsabilité,
voilà,
majeure.
C'est pas moi après qui va aller voir Florian Gray, lui expliquer pourquoi on a pris 50 paires contre l'Irlande, parce que j'ai mis un gamin de 20 ans, sur le 15 de départ.
Mais l'idée était bonne.
Voilà. Mais franchement, ça valait le coup.
On sent qu'avec, avec vous, là, pour l'instant, on a hâte qu'il commence ce tournoi destination. C'est quand même un beau moment chaque année.
Bien sûr, bien sûr.
Ah, bah oui, non, mais totalement.
Coraline, j'ai réveillé là. C'était,
Je travaille avec toi aussi.
Oui, vous préparez la prochaine séquence. D'ailleurs, merci pour ces petites infos. Bon, on est globalement assez fermé sur cette Coupe du Monde et on a hâte. La page est tournée. On a hâte de commencer celle du tournoi destination. Mais tout de suite dans l'émission, on ouvre une autre page, celle des pronostics. Et on va justement parler, alors on va essayer de faire les deux matchs, tout de suite on va parler de la Coupe de France de foot avec Rouen TFC. On va commencer par vous Coraline, et juste après à la fin de ce pronostic j'ai une petite info à vous donner.
Eh bien, on parle de foot du coup.
C'est perspicace en plus.
Exactement. Mais non, mais écoutez, le TFC, pourquoi pas, ils ont remporté la Coupe de France, s'ils ne me trompent pas, l'année dernière. Mais c'est une purge à chaque fois ce que vous me faites faire pour du foot, vraiment.
Pourtant, donc, pour jouer au foot, hein, enfin.
Oui, mais pour jouer au basket, pour jouer au handball, pour jouer, est une ville très sportive, effectivement, voilà.
Très bien.
Hop, 30 secondes.
Allez, hop, ça c'est fait. Erwan, TFC Rouen.
Mais TFC Rouen, moi je pense que le TFC s'est donné l'objectif des coupes, Coupe d'Europe et Coupe de France cette année, quitte à ce que ça la déstabilise un peu en Ligue 1, et je pense que là, pareil, ils vont vouloir faire un carton, ils vont vouloir au moins bien figurer dans cette Coupe de France, ils veulent assumer ce rôle de champion en titre, et je pense que à Rouen, le but sera de mettre un score. Voilà, il y a eu plein de buts au match précédent. Là, je pense qu'à Rouen, le but sera d'en mettre pas mal en plus aussi.
Très bien, le plus possible. Et vous, Corentin ?
Écoutez, je pense que je vais essayer de me mouiller un petit peu. Je pense que le TFC va se faire éliminer, sûrement au tir au but, avec une équipe de Rouen qui va les mettre en difficulté. Un match loupé des joueurs du TFC malheureusement, mais ouais, je les vois trébucher et se faire éliminer au tir au but, voilà. Sur un score donc un partout temps réglementaire et puis voilà, malgré un bon Guillaume Rest, quoi.
Très bien, ben, c'est noté. On prend des risques de côté de Corentin. La petite info, c'est que on avait vu passer cette histoire des tarifs fixés à 35 € pour le parkage visiteur. Le match se déroule à Rouen. Le TFC n'est pas du tout d'accord avec ces tarifs. Et donc du coup, ils ont décidé de prendre en charge la différence de 25 € sur chaque billet vendu en tribune visiteur pour les supporters du TFC. C'est une initiative. Du club des violets, voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et attention, de manière collégiale, le pronostic entre le Stade Toulousain et Basse, 3-2-1.
Toulouse.
Ah. Bonus même.
Ah. Oui.
Voilà. Indispensable s'ils veulent recevoir jusqu'au demi.
Très bien.
Jusqu'à la fin des phases finales, hors finale.
Eh bien, c'est noté. Voilà. Vous avez toutes les sachant que Stade Toulousain Basse, c'est à domicile. Voilà, Stade Toulouse.
Et j'y serai.
Et vous y serez, c'est magnifique. Semaine prochaine, nouvelle équipe, on prend tous rendez-vous, un nouvel invité au micro d'Esprit Sport. La semaine prochaine, nous retrouverons un nouveau sport olympique pour être au point avant le vendredi 26 juillet prochain, date de la cérémonie d'ouverture des JO. Très belle semaine à vous tous et rendez-vous, même heure, même radio.